Dutrisac.
Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
Je sais pas si vous avez vu les images, là, inondations, les feux de forêt, tempêtes, les vagues de chaleur, mais là, on l'a vu en Colombie-Britannique, puis on se rend compte que c'est à peu près la même histoire aussi à l'autre bout du Canada, dans l'Est, du côté Atlantique, à Terre-Neuve, aussi dans les provinces maritimes. C'est des catastrophes naturelles, là. Le Sabra, c'est vraiment impressionnant à voir, là, les rivières, là, qui décident de reprendre leurs cours, puis de briser des poteaux électriques, puis de défricher des arbres, puis de démolir des autoroutes. On a avec nous Philippe Gachon, qui est professeur au département de géographie de l'UQAM. Il est aussi directeur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale du réseau inondation intersectorielle du Québec. Monsieur Gachon, bonjour.
Bonjour, M. Dutrisac.
Est-ce que ça vous impressionne, est-ce que ça vous inquiète ce qu'on voit présentement en Colombie-Britannique et aussi dans les Maritimes?
Oui, absolument. Alors, non seulement c'est inquiétant, préoccupant, mais aussi ça s'inscrit, vous le rappelez, vous l'avez mentionné aussi, dans une série d'événements météorologiques qui ont été vraiment catastrophiques à travers le Canada cet été, quand on parle évidemment des feux de forêt, des vagues de chaleur, des inondations en ce moment. Donc, en fait, la nature nous rattrape. Le réchauffement, on le sait, prend une ampleur qu'on n'avait pas anticipée il y a quelques années. Le rapport, d'ailleurs, du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat nous rappelle à quel point le changement climatique, c'est non seulement une réalité, mais c'est en train de se produire avec une rapidité, une ampleur qu'on n'avait pas anticipée il y a quelques années.
Mais peut-être pas le prouver, là, mais est-ce qu'on pourrait l'appuyer sur des faits, là, que ce qu'on vit présentement à chaque extrémité du Canada, c'est lié au changement climatique?
Alors, on peut, d'un point de vue statistique, jamais attribuer un phénomène dans une tendance tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas une analyse complète de l'ensemble des phénomènes dans le temps. Mais je peux vous dire, et ça c'est indubitable, on a un climat qui est plus chaud que de 1,2 degré par rapport à la période pré-industrielle. Et dans un contexte de climat plus chaud, c'est le genre d'événements qui vont se reproduire de façon plus fréquente et plus intense. Donc, c'est peut-être et certainement symptomatique des événements qui vont se reproduire plus souvent dans le futur. Et c'est ça qui est préoccupant.
Est-ce qu'on peut intervenir, M. Gachon, là, dans ces événements-là, là? On dirait qu'un entraîne l'autre, là. Si t'as des feux de forêt, ben, les arbres sont déracinés, puis là, ben, il y a des inondations, des coulées de boue. Est-ce qu'il y a une logique à tout ça?
Alors, il y a une logique à tout ça, et encore une fois, les dernières années, dernières décennies, quand on regarde l'ensemble des phénomènes à l'échelle planétaire, on se rend compte que les événements extrêmes de nature météorologique sont en augmentation parmi tous les désastres naturels. On ne voit pas d'augmentation du nombre de tremblements de terre, de tsunamis, de volcans. Par contre, les seuls événements qui augmentent, c'est les événements d'inondations majeures, c'est les événements de sécheresse, c'est les événements de vagues de chaleur. Donc, tous ces phénomènes-là qui engendrent des conséquences extrêmement évidemment dommageables pour les populations, les infrastructures, sont en augmentation et vont augmenter dans le futur. Quant au Canada, on n'est pas exempt de ça. Il se produit effectivement plus de phénomènes d'inondation et plus de dommages que, j'irais, dans le passé.
Là, on a parlé d'après la British Columbia Wildfire, là, 232 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique, plus de 4000 propriétés qui ont été évacuées. On parle aussi de la vallée de Souma, là, qui était avant un lac qui a été drainé il y a 100 ans. Et là, tout à coup, on retrouve le lac. Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on a essayé de dominer la nature qui est indomptable?
Effectivement, je pense qu'il va falloir tirer des leçons de tout ça. Pendant des années, vous le savez, on a développé on a fait des aménagements en considérant aussi que le climat et l'environnement, on pouvait le dompter, mais surtout que le climat était stationnaire, c'est-à-dire ne bougeait pas. Or, aujourd'hui, on se rend compte que, justement, il est en train de changer et de façon beaucoup plus rapide. Donc, ça veut dire revoir notre façon de faire parce que les intensités de précipitations vont augmenter. Donc, autrefois, on avait construit, par exemple, des digues pour recevoir des volumes d'eau particuliers, mais aujourd'hui, ces volumes d'eau sont en changement majeur. Ce qu'on a vu en Colombie-Britannique les derniers jours, mais c'est des quantités énormes. Juste vous donner un exemple, il est tombé entre le 1er novembre et le 17 novembre à Abbotsford à peu près l'équivalent de plus de 500 mm de précipitation. C'est 2-3 fois ce qu'on a normalement pour tout un mois et en l'espace de simplement quelques jours. Donc, ce sont des volumes d'eau qui arrivent avec des intensités et c'est sûr que la nature, elle réagit et on n'a pas aménagé nos infrastructures pour répondre à ces intensités-là. Et c'est ça qu'il va falloir refaire.
Est-ce qu'on...
Il faut changer,
changer
nos façons de faire.
Mais c'est cette eau-là qui tombe subitement, là, est-ce qu'on sait d'où elle vient? Est-ce qu'on comprend son pattern?
Oui, alors... encore une fois, il faut de plus en plus développer les outils pour être capable de bien les prévoir. Mais oui, on s'est rendu compte, en fait, dans le cas d'ailleurs de l'Ouest, mais c'est vrai aussi dans le cas d'inondation qui a affecté Terre-Neuve et une partie de la Nouvelle-Écosse. Ce sont des systèmes qui ont tendance de plus en plus à durer sur ou à staller en bon français, c'est-à-dire à perdurer dans certains endroits. Et en plus, il nous amène des quantités de précipitations d'endroits très au sud, là où l'océan est très chaud, donc énormément d'humidité. Et ces phénomènes-là, qu'on appelle les rivières atmosphériques, peu importe comment on les appelle, eh ben, ils vont être justement dans des situations où ils vont avoir tendance à plus stagner dans le futur, donc à engendrer des quantités énormes qui vont s'accumuler pendant des jours et des jours. Et ça, c'est problématique. Et on a vu, vous rappelez les effets que ça a eu en Allemagne l'été dernier. C'est pareil, ils ont eu des grandes quantités de précipitations, mais c'est surtout qu'ils ont eu des accumulations pendant des semaines qui ont fait en sorte que les sols ont fini par être saturés.
Monsieur Gachon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, en anglais, on dit connect the dots, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des liens entre ce qui arrive en Colombie-Britannique, ce qui est arrivé en Europe au cours de l'année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde la grande image de tout ça?
Alors, oui, ben nous les scientifiques, on essaye de le faire et on essaie surtout d'informer les politiciens. Malheureusement, on s'entend qu'à la COP26, on n'a pas vu des grandes actions majeures, notamment prises suite malheureusement à cette urgence climatique. Il y a urgence. Et oui, on voit le portrait de la situation arriver. On le voit que ça a de plus en plus d'impact. Les conséquences économiques sont majeures, mais les populations, les dommages et les drames humains que ça engendre, c'est catastrophique. Donc, on ne peut pas continuer à faire semblant de que rien ne se passe et attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Donc, il y a des solutions pour ça. Et pour ça, il faut développer non seulement les outils, améliorer notre prévention. Le problème, c'est qu'on met beaucoup d'efforts sur l'intervention, mais on ne met pas d'efforts sur la prévention.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, je vous donne un exemple. C'est vrai pour la COVID, mais c'est vrai pour la plupart. On met très peu d'argent en prévention, on met énormément d'argent en intervention. On sait que, par exemple, la prévention, ça veut dire mieux se préparer. Non seulement fournir, développer les outils de prévision, mais informer les populations, les sensibiliser, les éduquer, parce qu'il y a aussi, par exemple, on vient de faire, d'ailleurs, le gouvernement du Québec vient de faire une analyse, en fait, du nombre de personnes qui sont conscientes, qui vivent dans les zones inondables, ben, on s'est rendu compte que la majorité des gens ne le savent pas. Donc, ça veut dire sensibiliser, préparer, prévenir avant que l'événement se produise, parce qu'on sait que, par exemple, $1 dépensé en prévention, c'est $7 d'économiser en intervention, parce que ça va réduire les coûts. Et ça va éviter justement que les gens se construisent tout le temps dans des endroits à risque.
Comment ça fait que j'ai jamais entendu ça, M. Gachon? L'équation du 1 et du 7 $?
Ben, on en a parlé pas mal à la COP, mais ça n'a pas été relayé par le gouvernement fédéral, ça n'a pas été non plus relayé par le gouvernement québécois, et je pense qu'on devrait mettre cet argent-là justement en prévention. C'est vrai pour la santé, mais c'est vrai pour les risques naturels.
Ouais.
Et ça veut dire être capable de se doter d'une capacité de surveillance et surtout que les scientifiques, les connaissances scientifiques servent à prendre les bonnes décisions. Jusqu'à présent, on a souvent fonctionné à l'aveugle. Il faut que ça change.
Il y a 2-3 affaires avant qu'on se quitte, M. Gachon. Là, vous avez mentionné les rivières atmosphériques. J'ai lu ça ce matin. On attend en Colombie-Britannique 3 rivières atmosphériques. Là, c'est l'image qu'on a en tête. Là, c'est que c'est l'équivalent d'eau qui circule dans le ciel. Mais comment on doit comprendre ça, là, ce terme-là, rivière atmosphérique?
Alors, avec le développement, évidemment, des nouveaux instruments, des nouveaux satellites de plus en plus précis, ben, on se rend compte que dans l'atmosphère, on a des endroits où on a des concentrations d'humidité énormes. Et c'est vrai en particulier sur la côte Est, c'est vrai sur la côte Ouest, mais c'est vrai sur la côte Est. Par exemple, on se rend compte que tous les gros systèmes qui se forment le long de l'Atlantique, ils vont puiser des quantités d'humidité énormes parce qu'on a le Gulf Stream, on a les eaux chaudes de l'Atlantique, on a les eaux chaudes aussi du Golfe du Mexique. Donc, on a des endroits où on a des concentrations d'humidité énormes. Et c'est vrai de chaque côté, évidemment, de l'Amérique du Nord. Et les systèmes, en particulier les plus intenses de l'hémisphère nord, parmi les systèmes les plus intenses, c'est bien ceux qui se forment sur l'Atlantique. Et on voit les dommages que ça a fait, évidemment, à Terre-Neuve. Donc, on a aujourd'hui une information qui nous permet de suivre ces phénomènes-là, mais c'est pas nouveau. On le savait que ces systèmes-là existaient, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte de façon plus précise la quantité d'humidité et éventuellement de précipitation que ça peut générer, ces systèmes-là.
Bon, en conclusion, M. Gachon, là, est-ce que c'est ce qui nous attend ici au Québec, là, ces inondations, ces routes inondées, endommagées par la crue des eaux, par des pluies torrentielles qu'on voit en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse?
Oui, et je vais vous donner un exemple. On en a eu, vous vous rappelez, l'année dernière, en décembre, le 1er 2 décembre, il est tombé des quantités énormes de précipitations entre 75 et 160 mm en Gaspésie, alors qu'il y avait déjà de la neige et on a eu des inondations à Richmond, dans la vallée de la petite Cascapédia, etc., en Gaspésie. On a déjà eu des quantités comme ce qui est tombé à Terre-Neuve depuis deux jours. Des 260 mm ou plus de 200 mm en l'espace de 24 heures, on a déjà eu ça dans Charlevoix ou dans certains secteurs du Québec. Parce que la différence de la Colombie-Britannique, où effectivement il y a des faits rocheuses en Colombie-Britannique, nous ici dans l'Est, on est aussi affectés non seulement par les gros systèmes d'automne et d'hiver, mais on a des systèmes de tropicales qui remontent parfois dans nos régions, ce qu'il n'y a pas dans la côte Ouest. Donc on peut avoir des quantités énormes. Et tous ces systèmes-là, eh ben, ils vont augmenter en termes d'intensité dans le futur, en particulier dans l'Atlantique, parce que l'Atlantique se réchauffe de façon plus importante que d'autres océans dans le monde.
Ouais, c'est pas les meilleures des nouvelles, hein?
Non, mais il va falloir mieux se préparer, puis comme je l'ai dit, investir. L'adaptation, elle ne se fait pas basée sur des hypothèses, elle se fait sur les connaissances scientifiques, c'est vrai pour la COVID, c'est vrai pour n'importe quel fléau. Donc, il faut se préparer et surtout se mobiliser et partager ces connaissances-là et les développer pour être capable de prendre les bonnes décisions.
Prof au département de géographie de l'UQAM, entre autres choses, Philippe Gachon, merci beaucoup, tout un plaisir.
Merci à vous.